Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on a comme un petit souci avec Facebook. Moi de mon côté, j'y vais plus vraiment, trop d'autopromos, trop de discours dogmatiques, pas assez de conversations. Le réseau clairement a muté, et avec la mobilisation actuelle des Gilets jaunes, c'est encore monté d'un cran. Le réseau est maintenant devenu un outil de gestion politique en temps réel, c'est quasiment du jamais vu. Et ça nous a poussé à nous interroger. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment un réseau social, et donc une entreprise commerciale, a pu prendre une telle place dans l'organisation et la diffusion de la parole publique. Les dirigeants de Facebook ont-ils conscience de ce qui est devenu leur outil ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer et pour faire un rapide état des lieux de l'univers Facebook en cette fin d'année 2018, on s'est tourné vers quelqu'un qui suit ça de près depuis longtemps, Martin Untersinger. Martin est journaliste au journal Le Monde, spécialiste des questions numériques, et j'ai commencé par lui demander c'est quoi Facebook en 2018.
Alors Facebook, ça reste quand même un réseau social, mais c'est un peu un réseau social qui a échappé à son créateur, ou plutôt dont le créateur n'a pas du tout perçu, anticipé les conséquences et les utilisations surtout qui peuvent en être faites. Donc c'est un peu encore un outil utilisé vraiment dans la vie quotidienne de 2 milliards de personnes, ce qui est quand même colossal, et en même temps une plateforme qui a dépassé l'intention de ses créateurs complètement.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on est passé en à peine un peu plus d'une dizaine d'années à un réseau sympathique où on partageait des photos de nos enfants et des photos de chats, en gros, si je résume, à un outil de contrôle politique, puisque c'est ce qu'il est en train de devenir ?
En fait, c'est une question qui a l'air compliquée, mais en fait, qui est très simple. Au début, Facebook, il y avait juste une sorte de petite élite qui avait les moyens d'être sur Internet, parce que ça coûtait encore cher, les téléphones coûtaient cher, les ordinateurs coûtaient cher, etc. Donc, il y avait des catégories très aisées, il y avait on était un peu entre, je dis on parce que j'y étais, on était vraiment entre soi dans un espace très cadré. Facebook apparaît dans les universités d'élite américaines. Oui. Voilà. Et puis peu à peu, y a toute la population, il y a tout le monde qui est sur Facebook avec tous les problèmes qu'on voit dans le monde. Ils ne sont pas créés par Facebook, ils sont juste plus visibles, plus flagrants. Et ça, les dirigeants de Facebook n'ont absolument pas su l'anticiper et le voir venir.
Comment ça se fait qu'ils ne l'aient pas vu venir ? Est-ce qu'eux-mêmes en parlent ? Est-ce que c'est un sujet qu'ils adressent dans leur communication officielle ?
Alors, là, depuis quelques temps, ils n'arrêtent pas de dire « Oh là là, on est vraiment désolés, on essaye de travailler à empêcher les problèmes de désinformation, empêcher les problèmes de propagande étrangère, de déstabilisation des élections. On travaille sur la question des contenus haineux, des trucs qu'on ne veut pas voir sur notre plateforme, etc. » Ce qui est pour certains des sujets qui sont assez anciens. Et pareil, c'est une question compliquée, pourquoi ils n'ont pas vu venir, mais en fait c'est assez simple finalement. C'est juste que c'est des hommes blancs, très riches, dans la Silicon Valley, qui ont construit leur outil à leur image et qui ne se sont pas du tout dit « Ah mais tiens, mais en fait, en Birmanie, les gens ils ne fonctionnent pas comme nous, ils ont une autre pratique, ou le contexte social est différent, ou alors ah non mais les Russes jamais ils font de la propagande sur notre plateforme, nous on est gentils. Et en fait bah si, c'est ce qui s'est passé, parce que c'est Facebook le reflet de toutes les tensions et toutes les choses qui vont pas très bien dans le monde.
C'est oui, tout. Finalement c'est de la chambre d'écho quelque part,
tout à fait.
Mais c'est une chambre d'écho massivement vue.
Absolument, il n'y a pas vraiment de problème qui soit né vraiment fondamentalement sur Facebook. Il y a peut-être des choses que Facebook aggrave. Par exemple, si on prend la question de l'ingérence étrangère dans les élections. Bon, la Russie a, selon toute vraisemblance, organisé une campagne en 2016 qui utilisait Facebook pour tenter de semer le désordre, on va dire, dans l'espace public politique américain. Bon, la propagande, l'ingérence étrangère dans une élection, c'est absolument
c'est pas
nouveau.
Oui.
Mais en revanche, faire des messages ciblés, adaptés à une audience bien particulière, ce que rend possible Facebook, parce que Facebook est d'abord un outil publicitaire ciblé, ça c'est nouveau. Donc il y a un phénomène ancien, la propagande, qui est dopé, qui est augmenté par les fonctionnalités de Facebook.
Quelque part, la responsabilité, elle est aussi collective. C'est par nos usages qu'on a fait muter Facebook et qu'on l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Ah bah, si on n'avait pas donné autant d'informations personnelles à Facebook, les Russes auraient eu beaucoup plus de mal à faire ce qu'ils ont fait. Et je parle des Russes, mais il y a tout un tas de problèmes. L'autre gros problème de Facebook, qui est notre responsabilité un peu collective, c'est la question des propos haineux ou des propos illicites sur Facebook. Il y en a des tas. C'est nous en fait. Enfin, c'est moi. J'espère que j'en poste pas trop, mais c'est quand même aussi oui une responsabilité collective.
Est-ce que Facebook a conscience d'être devenu quasiment un acteur du jeu géopolitique, dans le sens où il est passé du statut d'entreprise commerciale à quasiment à celui d'acteur international, où on le voit désormais traitant avec l'État français pour essayer de réguler sa plateforme. Ça aussi, j'imagine qu'il ne l'avait pas vraiment anticipé.
Non, et c'est difficile de distinguer qui relève vraiment de l'opportunisme ou disons de l'instinct de survie, parce que Facebook sait que s'il ne fait rien, les gouvernements vont légiférer, vont passer des lois, vont l'encadrer encore plus. Donc il y a un côté où ils réagissent à tout ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en même temps, les quelques cadres de Facebook auxquels moi j'ai accès en tant que journaliste français, on sent qu'ils sont de plus en plus inquiets, préoccupés, vraiment sincèrement, de ce que leur créature est en train de faire. Mais pour l'instant, je pense que la clé d'analyse, ça reste quand même, ils ont peur des États, ils ont peur des gouvernements, ils n'ont pas envie qu'ils passent des lois les encadrant encore plus.
Ce qui m'a toujours frappé, en tout cas de plus en plus ces dernières années, c'est aussi la perception que le public a de Facebook, qui est quasiment devenu, ou qui est quasiment vu comme un service public maintenant, plus que comme une entreprise commerciale. Ouais.
Alors qu'à mon avis, c'est une erreur de diagnostic. Enfin, c'est vraiment, il faut sortir de cette idée que c'est autre chose qu'une entreprise, même si c'est en même temps plus qu'une entreprise, mais ça reste quand même une entreprise avec un PDG, avec un siège social et avec surtout une ambition qui est de gagner de l'argent, et de gagner de l'argent en collectant des données personnelles pour proposer de la publicité, enfin des mécanismes de ciblage. Et ça, on devrait presque dire que Facebook, c'est un réseau social et une régie publicitaire. On devrait quasiment toujours le dire, parce que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas. Et c'est la clé un peu, je pense, de tous les problèmes qu'a Facebook. C'est qu'ils se sont dit, on veut gagner plein d'argent, on va faire plein de nouvelles fonctionnalités, de partager les informations, de le rendre vraiment ouvert à tous. Et voilà, on s'en retrouve un peu avec les effets collatéraux de cette entreprise.
Et pourtant, malgré cette contradiction évidente, le réseau est considéré par beaucoup comme une composante incontournable de l'expression publique. C'est notamment très très visible au cœur d'un phénomène dont on a beaucoup causé. Ici comme ailleurs, vous m'avez vu venir, ce sont les gilets jaunes. Plusieurs chercheurs et journalistes se sont penchés sur la question. Parmi eux, Frédéric Filloux, ancien directeur de la rédaction de 20 minutes, désormais chercheur sur les questions liées à l'information. Il tient la Monde des Notes, qui est une newsletter de référence sur les médias et l'économie, pour laquelle il a rédigé un article précisément sur ce sujet. Je l'ai donc invité à venir nous expliquer le rôle de Facebook dans le mouvement actuel.
C'est vrai que je suis un peu stupéfait comme tout le monde par l'ampleur du mouvement, par sa violence naturellement, et par le fait que... Finalement, on est en train de se rendre compte que pour ce genre de mouvement qui est complètement spontané, né de la base, Facebook est un vecteur formidable de leur point de vue, enfin du point de vue des Gilets jaunes, parce que il apporte une aide, un support logistique extraordinaire par le fait qu'il permet d'organiser énormément d'événements et malheureusement de façon beaucoup plus pernicieuse et je pense dangereuse pour la démocratie, c'est aussi la chambre d'écho de tous les délires qu'on peut voir sur les pages, de toutes les théories complotistes, des revendications les plus absurdes, et naturellement d'un flot incessant de fake news. Donc je trouve que c'est à la fois c'est fascinant et absolument terrifiant. Et encore une fois, ce qui est étonnant, c'est que c'est bon évidemment un outil extrêmement simple d'accès et que vraiment c'est la base se l'est approprié.
Il y a un élément notamment que vous soulignez dans cette fameuse note, c'est la manière dont Facebook se substitue aux médias traditionnels.
Alors là, je trouve que c'est la partie la plus, presque la plus inquiétante. Et loin de moi l'idée de faire une déclaration, une prise de position corporatiste par le fait que j'ai passé 12 ans de ma carrière à Libération, j'ai créé 20 minutes, j'ai bossé pour le groupe Les Échos, etc. etc. Mais néanmoins, les médias sont en plein décrochage. Quand on regarde les chaînes d'infos, comme tout le monde, je me mets à regarder BFM avec pas mal de réticence, mais on constate quand même qu'ils sont totalement à la remorque. Et surtout, il suffit simplement de regarder quelques chiffres. Chaque jour, il y a 43 millions de personnes qui se connectent sur l'Internet en France. Il y en a 29 millions qui se connectent sur Facebook, ce qui fait 67%. J'ai été stupéfait par ce chiffre que j'ai trouvé sur le site de Médiamétrie. Et lorsqu'on regarde sur une base annuelle, on est à 88%. Donc la capillarité de ce média est absolument gigantesque. Et quand on regarde l'audience, par exemple, que j'ai également regardé, mesuré, de par exemple les 6 premiers médias français, qui sont Le Figaro, France Info, BFM, 20 minutes, Le Parisien, Le Monde, ils représentent collectivement une douzaine de millions de visites quotidiennes. Donc, par comparaison à ces 29 millions de visites sur Facebook, ça fait 41%. C'est extrêmement faible. Et si, en plus de ça, on faisait une subdivision encore plus fine, où par exemple on mesurait l'audience de ce que font beaucoup de médias qui font de la vérification d'informations, du fact-checking, comme par exemple les décodeurs du Monde ou des choses comme ça, on se rendrait compte que leur audience est totalement infime par rapport à l'audience qui est partagée sur Facebook. Donc il y a un décrochage qui est absolument terrifiant. C'est-à-dire que toutes les capacités que ces médias, qui en général font très bien leur métier, on a quand même des médias de très bonne qualité en France, n'a aucune chance d'être écouté, d'être entendu. Par rapport à, se dissout totalement dans le bruit ambiant. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de vertigineux. Alors, c'est pas un phénomène unique à la France, mais pour la première fois, me semble-t-il, on a un pays occidental où la capacité à répandre et à disséminer, plus exactement, une information de bonne qualité est totalement annihilé par une espèce de bruit ambiant super violent, populiste, poujadiste, excessif, appelant à la violence. Et c'est pas du tout un jugement de valeur sur la validité des revendications des Gilets jaunes. Je regarde ça d'un point de vue extérieur, je trouve ça terrifiant.
Mais ces médias traditionnels, on va dire anciens, sont aussi présents sur ces plateformes. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi justement à instiller leur parole à travers le vecteur qu'est Facebook ?
Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'ils ont mis d'abord du temps à être bons là-dessus et ils ont accumulé un retard très important. Ensuite, Facebook, c'est le seigneur des anneaux là-dessus. Ils ont la maîtrise totale du machin. Et parce que des analystes à Menlo Park, qui est le siège de Facebook en Californie, ont décrété que finalement, les médias, les articles issus par les médias, ça cliquait moins, etc. Ils ont changé l'algorithme. C'est public et c'est très bien documenté. Et ils ont favorisé l'émergence de groupes et l'émergence de discussions individuelles, enfin, ou en petits groupes, au détriment des médias. C'est-à-dire que même à l'intérieur de l'écosystème de Facebook, les médias ont perdu l'audience. Donc, le décrochage est important. Facebook, par sa structure, se nourrit des divisions de la société. Facebook est une machine à créer des silos. Là où Google essaye d'agréger, avoir des médias, avoir des gens qui ont de la voix, à faire en sorte qu'il y ait l'émergence d'une certaine qualité dans les médias, Google n'est absolument pas parfait, naturellement, mais Facebook ne s'est construit que sur les fractionnements de la société. Et on a encouragé, Facebook a encouragé, pas de façon, pas par design, comme on dit, pas par conception, mais par conséquence et incapacité à regarder le phénomène, a encouragé la création de silos où les gens se retrouvent, enfin de bulles cognitives, comme on l'appelait, filter bubble, où tout le monde se retrouve, des gens qui sont du même avis se retrouvent totalement circuit fermé, à parler des mêmes choses, à échanger les mêmes arguments, et tout le système se développe, mais de façon SM, quoi. C'est Vincent Glade qui remarquait dans Libération la semaine dernière que dès l'instant où vous faites trois clics sur votre newsfeed dans Facebook, vous êtes submergé par de la couleur jaune. Donc ça, c'est un vrai problème.
Alors là, je me permets une petite incise. Frédéric Filloux parlait à l'instant de l'article signé par le journaliste Vincent Glade dans Libération sur les implications numériques de Facebook chez les Gilets jaunes. J'ai passé un petit coup de fil à Vincent qui vit et travaille à Berlin pour qu'il nous détaille tout ça.
Allô ?
Ouais.
Salut. Ça va, Vincent ?
Ouais, ça va.
Quel est l'impact de Facebook dans cette mobilisation en ce moment ?
Bah, c'est évident que j'aurais eu un impact sur le plan de l'organisation, puisque c'est vrai que le premier event qui a lancé un peu tout, c'est le blocage du 17 novembre, qui était une page lancée par Eric Drouet, le routier qui est un peu devenu le porte-parole. Donc il y a eu déjà c'est une raide sur l'organisation. Et après, je dirais que tout le corpus idéologique, s'il y en a un vraiment, en tout cas toute la conversation, elle se fait sur Facebook. Toutes les revendications, même si elles sont assez confuses, il n'y a pas vraiment de liste unifiée des revendications, elles se sont toutes dessinées dans les conversations Facebook. Et quand on dit, par exemple, quand Castaner dit la mobilisation est faible, parce qu'il dit, c'est pas un mouvement de masse, parce qu'il y a, disons, 100 000 personnes dans la rue. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a tous ces gens derrière. Qui commentent, qui discutent ensemble sur Facebook. Donc la vraie mobilisation des Gilets jaunes, donc au-delà des ronds-points, au-delà des manifs un peu violentes à Paris, bah, c'est aussi simplement ces gens qui parlent entre eux et qui, pour la première fois, ont un espace de discussion commun. Voilà. Donc ça, c'est très nouveau et ça veut dire aussi qu'après la mobilisation, je ne sais pas quand ça se terminera, mais disons que même si ça se terminait bien pour le gouvernement, à la fin, il resterait tous ces groupes Facebook. Donc cette conversation, elle continuerait. Et ça veut dire qu'à la moindre étincelle, ça pourrait reprendre. Parce que tous ces gens, bah, ils restent en contact.
Et puis il y a aussi un phénomène que tu notais, toi, de ton côté, c'était la forme de remplacement des médias qu'opère Facebook, notamment via des Facebook Live.
Il y a beaucoup de formats qui marchent très fort, donc le Facebook Live, qui est notamment utilisé par les admins de groupes, hein, comme Eric Drouet ou Maxime Nicole, qui sont les deux plus populaires de très loin sur Facebook. Il y a aussi énormément de vidéos partagées, donc on a disons au moins une centaine, si ce n'est plus, de vidéos qui ont dépassé le million de vues. Donc amusez-vous à aller regarder sur un site de médias sur Facebook comment ils font de vues, un média qui met des vidéos en ligne, ça fait souvent 10 000, 20 000 vues, quoi. Là on est sur des vidéos qui font 6 millions, 10 millions de vues parfois. Donc il y a toute une production médiatique, c'est-à-dire qu'effectivement ils n'ont plus besoin d'aller sur les grands médias. Encore que BFM TV est quand même utilisé pour pas beaucoup comme la CNews, comme une manière de voir ce qui se passe en fait dans la vraie vie. Mais après leur analyse, elle va se faire entièrement sur Facebook. Elle va certainement pas se faire dans ce que disent les mecs sur BFM TV, parce que l'analyse elle peut être faite par un Facebook Live effectivement d'Eric Drouet ou de Maxime Nicole. L'analyse elle va être faite dans les commentaires. Donc c'est évident que, et quand on regarde ce qui est partagé sur ces groupes, il n'y a quand même pas beaucoup de liens, quasiment jamais un fact-checking de Libération qui est partagé. C'est clairement pas le sujet. Donc les médias sont de toute façon discrédités et c'est la parole plutôt de ces porte-paroles ou de ces gens qui parlent dans des vidéos qui est considérée comme juste.
Puis il y a aussi un phénomène intéressant, c'est la manière dont, on va dire, ces mouvements hackent un peu la communication du gouvernement, notamment, tu notais toi un événement qui n'avait pas du tout été relevé, mais le fait qu'ils aient filmé, par exemple, leur rencontre avec François de Rugy sans en avoir l'autorisation.
Oui, ça c'est absolument fou, et d'ailleurs j'étais extrêmement étonné que personne n'en ait parlé médiatiquement, parce que c'est... bah c'est majeur. C'est les journalistes qui vont essayer de faire un compte rendu de cette réunion. Ils vont notamment interviewer le ministre, mais il y avait quand même toute la réunion qui était diffusée sur Facebook, quoi, et qui avait été juste regardée par les gens du groupe. Et donc ça, c'est clairement un des nouveaux éléments qu'ils ont un peu inventé entre eux pour faire cette démocratie directe où les porte-paroles ne sont que des messagers et sont chargés, sous la supervision des internautes, d'aller donner le message. Mais en aucun cas, ils ne veulent être chef. En tout cas, on voit bien que Maxime Nicole et Éric Drouet ne cherchent pas d'avoir le pouvoir. Ils se mettent toujours, ils disent toujours « Je vais vous prouver que je ne prendrai pas le pouvoir à la fin. Je ne suis que le messager. Pour vous le prouver, je vais filmer tout ce que je fais. » Voilà, donc c'est vu comme une sorte de preuve de la non-trahison. Alors que, par exemple, Jacqueline Moreau, qui est la plus médiatique dans les médias, elle est totalement déconsidérée parce qu'elle est jugée comme... elle n'est pas du tout dans ce délire, dans ce truc de démocratie directe. Elle est considérée comme quelqu'un qui veut prendre elle-même le pouvoir derrière. Donc c'est très important pour les Gilets jaunes sur Facebook d'avoir des représentants qu'ils peuvent juger à tout moment via ces Facebook Live, notamment, pendant les réunions avec les ministres.
Les Gilets jaunes sont donc bien en train de hacker le système politique en utilisant finalement de manière très simple les fonctionnalités de Facebook. Et d'ailleurs, le réseau n'est pas le seul à servir de nouveaux vecteurs de l'action politique d'où qu'elle vienne. C'est ce que Frédéric Filloux nous a notamment expliqué.
Si on prend par exemple ce qui s'est passé avec l'élection de Bolsonaro au Brésil il n'y a pas longtemps, elle a été très 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 largement supportée par WhatsApp et par la création de groupes sur WhatsApp. Bolsonaro avait sa petite équipe qui manageait toute son idéologie, toute sa base électorale. Il l'a fait grossir grâce à WhatsApp.
Mais de quelle manière ? Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est construit ?
Ils ont fait comme tout le monde, c'est-à-dire que ils ont défini des messages, ils ont déterminé trouver des groupes sur WhatsApp, et puis ils se sont arrangés pour pour modérer les groupes, pour les faire grandir, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a une technologie derrière ça qui est assez hallucinant. Juste pour vous citer un exemple, pour revenir aux États-Unis, durant la campagne de 2016, pour faire comprendre la capacité de ciblage, non pas de WhatsApp, mais on revient sur Facebook à l'instant. En 2016, donc pendant la fin de la campagne, disons les 6-8 derniers mois de la campagne électorale, Donald Trump, qui avait embauché un mec absolument diabolique qui s'appelle Brad Parscale, qui est un génie absolu de ce genre de truc. Ils ont injecté dans le système 5,9 millions de versions différentes de messages. Ils les ont testés et naturellement, ils répercutaient ce qui marchait le plus. Par opposition à ça, le camp Clinton n'en a testé que 66 000.
Donc il y a un différentiel assez
important. Et cette capacité de ciblage va être un élément déterminant des prochaines campagnes électorales, notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que on va passer d'un système où vous savez peut-être pas que le système de publicité de Facebook permet de cibler de façon parfaitement identifiée des groupes de personnes jusqu'à 20 personnes. C'est-à-dire que la granularité est extraordinairement forte. Donc, les campagnes électorales ont tendance à s'adresser à des groupes sociaux, de gens, etc., etc. La prochaine étape, ce sera de faire des ciblages complètement individuels. Et les 5 ou 6 millions de messages individuels que j'évoquais tout à l'heure, dans une future itération, en l'occurrence en 2020, d'une campagne électorale, ils seront capables de cibler de façon hyper précise Madame Smith qui vit dans une banlieue de l'Oklahoma, qui est une mère célibataire, qui a un enfant handicapé, etc., etc. On pourra lui dire, Madame Smith, l'État vous a laissé tomber, les démocrates veulent vous piquer ce qui vous reste, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? On va vers une capillarité, une capacité de ciblage absolue des messages.
Pour en revenir à nos gilets jaunes, là pour le coup on assiste à on va dire un déploiement des choses qui est un peu inverse, parce que là on parle du coup de forces politiques qui vont chercher les gens, là ce sont plutôt les gens qui prennent de court les forces politiques. J'ai l'impression que l'organisation se fait un petit peu différemment.
Tout à fait. C'est assez fascinant que la symétrie est complètement inversée. Ce qui m'inquiète très fortement dans le sujet des Gilets jaunes, ils ont une utilisation de Facebook qui n'est pas hyper sophistiquée, qui est extrêmement brouillonne, mais néanmoins extrêmement efficace. Bon. En face, encore une fois, on a un décalage monstrueux avec ce que les médias peuvent faire, quelle que soit leur bonne volonté, et on a un vide sidéral par rapport au message que pourrait dispenser le gouvernement, simplement pour faire passer ses idées, pour faire de la pédagogie. Au lieu d'expliquer en 6 minutes les mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe, on pourrait imaginer qu'il lance une grande campagne Facebook à base de micro-vidéos, etc., etc. Il y a cet élément-là. Et l'autre élément, c'est... ça m'a quand même fait marrer de voir que les gens veulent protéger Facebook comme étant l'outil de leur revendication ou de leur expression.
Quasiment comme un service public.
Absolument. Quand il y a eu la panne la semaine dernière de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp, qui n'a pas duré, je crois, très longtemps, il y a eu immédiatement cette espèce de théorie du complot qui s'est développée selon laquelle Facebook était de mèche avec le gouvernement pour couper la parole aux gilets jaunes. Et il faut protéger Facebook, qui était devenu une ancienne. Parallèlement à ça, samedi dernier, je pense que vous étiez comme moi dans les rues de Paris, on entendait des gens qui disaient « Ah ben de toute façon, il faut faire payer les GAFA, à commencer par Facebook, par Google, par Apple, qui ne payent pas de taxes en France, qui entre parenthèses c'est complètement vrai, et un peu scandaleux. » Mais il y a cette espèce d'incohérence sur les trucs. Et j'écoutais Gérard Larcher, on lui disait « Mais alors, où faut-il prendre l'argent ?» Il dit « Très bien, commençons par faire payer les géants de l'Internet qui ne payent pas leur taxes en France. » Donc il y a cette espèce de mystique qui est autour de ça aussi.
Encore une fois, la question à laquelle personne n'a assez logiquement la réponse, c'est comment tout ça va perdurer, comment ces communautés formées quasi organiquement sur le web vont s'installer dans le temps. Nous, évidemment, on continuera de suivre tout ça de près. Merci à Martin Untersinger, Vincent Glade et Frédéric Filloux pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.